Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la puissance de la prière. Dans le psaume 30 et le verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Nous savons tous que la prière, c'est quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Et si on se rappelle notre propre conversion, comment est-ce qu'on est venu au Seigneur ? Souvent, c'est parce qu'on a prié, on a cherché Dieu, ou alors c'est parce que quelqu'un a prié pour nous afin qu'on trouve le Seigneur. Et le chemin de la prière, c'est le chemin qui nous mène, qui nous approche de Dieu, qui nous attire vers Dieu. Et quelqu'un comme Corneille, dans le Nouveau Testament, c'était un païen, il était d'origine italienne, un centenier, il n'était pas du peuple juif, mais la Bible dit qu'il priait. Il priait avec ses mots, à sa manière, ce Dieu qu'il ne connaissait pas. Et finalement, c'est dans ces temps de prière, Dieu a entendu, parce que la Bible dit « Tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu ». Et Dieu a envoyé un ange qui lui a révélé d'aller chercher Pierre, et Pierre lui a annoncé la parole de Dieu, la prière. On sait aussi que l'Église entière est née dans la prière. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que le jour où l'Église a été remplie du Saint-Esprit, elle a commencé à s'épanouir. Et puis, on voit une Église qui prie. D'ailleurs, dès le début que l'Église est née, elle a commencé à prier. Et pourtant, aujourd'hui, on se rend compte que c'est une pratique qui tend à être négligée. On n'a plus le temps de prier, on ne prend pas le temps de chercher Dieu. Pourquoi un tel décalage ? Peut-être que vous avez l'impression que quand vous priez, vous perdez du temps. Le temps, c'est précieux. Vous avez d'autres choses à faire. Peut-être que vous pensez que Dieu ne vous entend pas, qu'il est occupé à autre chose. Ou peut-être que vous pensez que la prière ne change même pas votre situation. Donc, si vous ne priez pas, ça ne changera rien. Eh bien, tout ceci, ce sont des mensonges du diable. La Bible dit que le diable est menteur et le père du mensonge. Et si nous croyons plus les mensonges du diable que la parole de Dieu, forcément, notre chemin va être détourné. La prière n'est pas le seul élément important, bien sûr, dans la vie chrétienne, parce qu'il ne suffit pas de prier ou de rabâcher des paroles. Il nous faut y associer la foi, bien sûr. Il nous faut croire en Dieu, il nous faut servir le Seigneur, il nous faut témoigner. Mais sans la prière, toutes ces choses seront sans fruit. C'est-à-dire, le service sera sans fruit, le témoignage ne portera pas de fruit, tout ce que nous faisons pour le Seigneur restera infructueux. Si nous ne prions pas, tout s'effondre. Voilà pourquoi la prière, c'est vraiment la base de la vie chrétienne. J'aimerais voir dans le livre des Actes quatre enseignements fondamentaux sur la prière. Le premier, c'est dans Actes 2, 42. C'est prier avec régularité. Actes 2, 42 dit ceci. Ils persévéraient dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2, il persévérait donc dans les prières. On est au tout début de l'histoire de l'Église. On est dans Acte chapitre 2. Dès que l'Église est née, elle a pris conscience qu'il faut persévérer dans la prière. Et ça doit être l'ADN de l'Église encore aujourd'hui. Ça doit faire partie de notre vie spirituelle. Sans la prière, rien ne se passe sur le plan spirituel. Parce que nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes dans une vie spirituelle. Et Jésus avait enseigné ceci aux disciples, qu'il fallait prier sans cesse. Et les disciples n'ont même pas pu veiller une heure avec lui. La Bible dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et souvent, nous péchons à cause de la chair. Alors, que signifie persévérer ? Une autre traduction dit « Ils étaient assidus à la prière. » Alors, ça veut dire, c'est pas seulement prier quand tout va bien, mais c'est prier aussi quand les vents sont contraires, quand les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. Parce que si c'est uniquement prier quand tout va bien, bien, il n'y a pas besoin de persévérer. Ça vient naturellement, c'est facile de prier. Mais quand les vents sont contraires, il va falloir quand même prier. Et qu'allons-nous faire si les choses n'avancent pas comme prévu, si nous sommes déçus, si nous sommes blessés? Est-ce que nous allons abandonner? Eh bien, persévérer, ça signifie continuer, même si nous ne voyons pas encore la réalisation, l'exaucement de nos prières. C'est continuer, quelles que soient les circonstances. Les circonstances sont difficiles, je continue à prier le Seigneur, je lui fais confiance. Si vous n'avez pas encore mis en place un temps de prière régulier, c'est-à-dire tous les jours, ça c'est vraiment la vie chrétienne, prier tous les jours, ça c'est la première étape. Pourquoi? Parce que nous devons être des disciples. Un disciple, il est discipliné, il a mis en place la prière quotidienne. Alors vous dites peut-être, oui, mais moi je ne veux pas devenir un chrétien légaliste, je ne veux pas me forcer, alors je prie si j'ai envie. On va lutter contre le légalisme, comme ça on va dire, moi si je n'ai pas envie, je ne prie pas. Mais ce n'est pas ça. Parce que le problème, c'est que le diable, lui, tous les jours, il fait des plans pour vous détruire. Et si vous ne priez pas tous les jours, bien lui, ses plans, il continue à s'accomplir, il continue à faire son œuvre. Donc en fait, vous vous affaiblissez, vous diminuez votre communion avec Dieu, vous êtes fragilisé, et petit à petit, vous pouvez lâcher la main du Seigneur. Si vous négligez de préparer votre journée dans la prière, lui, le diable, il a fait ses plans. Donc, c'est vous qui vous mettez en difficulté. Par contre, lorsque vous priez tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous priez tous les jours, vous vous mettez en connexion avec Dieu. Et lui, il est en train d'opérer dans le monde spirituel pour vous bénir, pour vous protéger, pour agir en votre faveur. Ça, c'est quand vous priez. Dieu accomplit dans le monde spirituel ce que vous ne pouvez pas faire. Ça, c'est la prière. C'est pour ça que la prière, c'est vraiment un enseignement pour les chrétiens. Le monde n'enseigne pas ces choses-là, ne connaît pas la prière. C'est d'autres formes de prière, mais la vraie prière, elle est spirituelle. Elle nous unit à Dieu dans la foi et elle nous permet de remporter de grandes victoires sur le plan spirituel. Donc, réaliser que nous sommes au bénéfice des prières des autres, parce que d'autres ont prié pour nous avant même que nous nous convertissions. Et c'est à nous aussi de prier pour les autres afin qu'ils se tournent vers le Seigneur. Nous poursuivons une route tracée par nos prédécesseurs. Vous savez, dans la Bible, il y a une sorte de transmission, c'est un peu comme un relais. Dans un relais, on transmet le témoin. Regardez 2 Timothée 2:2. Ça, c'est vrai pour la vie chrétienne. On transmet quelque chose à la génération suivante. Et ce que tu as entendu de moi, donc c'est Paul qui parle à Timothée ici, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Donc il va falloir transmettre. Qui seront capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et donc ça fait une chaîne. Ça c'est vrai pour l'enseignement. Donc on a reçu, on transmet. La personne a reçu, elle transmet. Et de génération en génération, ça fait 2000 ans de transmission finalement. Depuis l'apôtre Paul jusqu'à nous. Ça veut dire qu'il y a eu des qui se sont succédés pour transmettre. Mais je dirais pour la prière, c'est la même chose. Nous devons prier, d'autres ont prié pour nous. Nous prions pour d'autres qui vont prier pour d'autres et ainsi de suite. Il faut transmettre ce zèle pour la prière parce que si le zèle de la prière disparaît, eh bien c'est comme si le maillon ne fonctionne plus. Et la boucle est fragilisée. Alors pourquoi certains ne persévèrent pas? D'abord, ils ne voient pas l'intérêt de la prière, ne comprennent pas l'importance de la prière, ils se reposent sur des acquis. Peut-être ils se disent que d'autres prient déjà, donc ce n'est pas la peine qu'ils prient eux-mêmes, le Seigneur connaît déjà. Si tout le monde raisonnait comme ça, personne ne prierait plus, donc ce n'est pas un bon raisonnement. Ils pensent peut-être qu'ils perdent leur temps, ils ne voient pas l'intérêt. Le problème, c'est quand on raisonne comme ça, c'est qu'on ne comprend pas le combat spirituel dans lequel on est engagé. C'est un combat puissant. C'est un combat contre la chair, un combat contre le diable, un combat contre le monde. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles il n'y a pas de combat. Si, par exemple, on vous invite à un bon repas, si on organise un repas, il n'y a pas tellement de combat pour aller manger. C'est assez naturel, c'est assez facile. On vous invite à un concert, il n'y a pas tellement de combats. On y va, on est content d'y aller. n'y a pas tellement de combat pour les choses du monde. Mais si c'est pour prier, si c'est pour passer du temps à genoux, chercher la face de Dieu, là c'est autre chose. Là il y a un combat. Il y a un combat parce que c'est contre, on est en train de combattre contre la chair. La chair n'aime pas ça. Alors vous allez trouver des excuses, tu es fatigué, tu n'as pas le temps, tu le feras une autre fois. Mais ça c'est la chair. Et si vous ne savez pas faire taire la chair à ce moment-là, dans ce combat-là, ben c'est la chair qui va prendre le dessus. Donc du coup, l'opposition va devenir si forte que votre prière va être limitée. Et le diable, il fait tout pour vous empêcher de prier finalement, de passer du temps à chercher Dieu. Alors il va tout faire pour vous empêcher, pour vous affaiblir. Mais si vous ne faites pas taire la chair à ce moment précis, vous ne remporterez jamais de victoire spirituelle. La chair se dressera toujours contre la prière, sachez-le. La prochaine fois que vous décidez de prier ou qu'il y a une réunion de prière, sachez-le qu'il y aura déjà de l'opposition. Si vous prenez la victoire et que vous réussissez à venir à l'église, vous dites, voilà, il y a une soirée de prière ou il y a un jeûne et prière, je viens, ben, même en venant, l'ennemi va tout faire pour vous empêcher d'ouvrir la bouche, pour que vous ne priez pas, pour que vous soyez à côté de la réunion. Et puis vous culpabilisez. Tu n'es pas capable de prier, ta prière n'est pas intéressante, les gens ne vont pas écouter ta prière. Ça, c'est l'ennemi. Alors que faire? Il y a un conseil très simple que je donne. C'est de faire tout le contraire de ce que ces pensées-là vous disent. Si l'ennemi vous met en pensée de ne pas aller prier, allez-y. Et s'il vous met dans la pensée de ne pas ouvrir la bouche, ouvrez la bouche et dites quelques paroles au Seigneur, même quelques mots. Et en fait, en faisant le contraire de ce qu'il dit, vous prenez une autorité, vous commencez à grandir spirituellement, vous commencez à progresser. Mais si vous écoutez toujours ces paroles négatives, de rabaissement, qui vous disent « c'est pas la peine de prier, n'ouvre pas la bouche, ta prière n'intéresse personne », eh bien, petit à petit, c'est l'ennemi qui prend l'ascendant sur vous et qui vous diminue. Et ça, c'est pas bon. Donc, c'est à nous de prendre autorité. Personne ne le fera à notre place. Des fois, il y a des blocages dans notre esprit. On va prendre autorité dans le nom de Jésus parce que la Bible dit « c'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit d'amour, de force et de sagesse ». Donc, la timidité, elle doit disparaître. Il y a parfois tous ces blocages, on les enlève par la foi. Et c'est ainsi que petit à petit, vous voyez, on va remporter des victoires. Ça va commencer par une première victoire, on va venir. Deuxième victoire, on va ouvrir la bouche, on va dire quelques mots. Ce n'est pas forcément très long, mais on a commencé. Et on est déjà dans un processus. Je vous donne un autre passage dans le livre des Actes pour vous montrer l'intérêt que les premiers chrétiens trouvaient dans la prière. Acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Donc, ils s'étaient associés, Pierre et Jean. Il y avait un temps de prière. À l'heure de la prière, ils s'étaient donné rendez-vous au même endroit. Et ça, c'est important d'avoir des temps de prière où on se retrouve. C'est pour ça que les premiers chrétiens le faisaient. Nous le faisons. Nous avons des rendez-vous de prière. Que ce soit le mardi soir, des fois des jeûnes et prières, il y a des groupes de maison. Tout ça, c'est des temps de prière qu'on met à part. Eh bien, c'est des temps pour chercher la face de Dieu. Alors, que faisons-nous à l'heure de la prière? Peut-être certains disent « Ah oui, mais moi, je n'ai pas le temps, ce n'est pas possible, c'est trop tard, c'est trop tôt, c'est trop comme ceci, comme cela. » On a tous des choses à faire. Et à un moment donné, ils ont décidé, c'était la 9e heure, ils ont dit « On va au temple. » Alors là, ça correspondait à 15 heures de l'après-midi et ils ont mis leur priorité. Et si nous n'arrivons pas à bloquer du temps dans notre agenda, si nous ne mettons pas en place sérieusement des temps de prière, eh bien finalement, ça sera grignoté par d'autres activités et la prière ne trouvera jamais sa place. C'est pourquoi Pierre et Jean avaient bloqué l'heure de la prière. Eh bien, ils auraient pu à 15 heures faire autre chose, mais ils étaient présents là où Dieu les voulait. Nous serons testés dans nos priorités, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous mettons en premier dans notre vie? Est-ce que le Seigneur a toujours la première place dans notre vie? Ou est-ce que, finalement, nous venons si nous avons envie ou si nous avons le temps, mais nous ne l'avons pas vraiment calé dans notre agenda et c'est devenu secondaire? Nous devons chercher en priorité ce qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? La prière. Et si vous mettez Dieu en premier dans votre vie, comme dit la Bible, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, eh bien, vous serez forcément attiré par ce qui plaît à Dieu, la prière et la recherche de sa face. Ça, c'était le premier point. Donc, de persévérer. Persévérer dans la prière. Prier, ce n'est pas juste une fois par semaine, une fois si on a le temps, mais c'est d'avoir une régularité. Deuxième enseignement, c'est prier quand tout va mal. Actes chapitre 4, verset 24. Là, on est toujours dans les livres des Actes. On voit les apôtres qui sont en grande difficulté. On leur empêche d'annoncer la parole de Dieu. Actes chapitre 4, le verset 24. Alors, ils vont faire une prière à Dieu. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, et là c'est une prière, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples, les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton roi. » En effet, Hérode et Pilate, c'est-à-dire les deux personnes les plus importantes du pays, s'étaient opposés à l'œuvre de Dieu. Et donc, il y avait un combat, il y avait un choix à faire. Soit on se soumet et puis on ne parle plus de Jésus et on arrête tout, soit on prie, on cherche la face de Dieu et on continue avec les forces que Dieu nous donne. Donc, ils ont fait le choix de la prière, malgré la persécution. Ils ont élevé la voix tous ensemble et c'est bon dans nos rassemblements, d'élever la voix, mais tous ensemble, parce que Dieu entend toutes nos prières, et ça donne une prière collective. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont dit à Dieu leurs problèmes, leurs difficultés, ils étaient menacés, ils étaient persécutés, ils ont fait monter vers Dieu leur sujet de prière. Et après avoir prié, le lieu où ils étaient réunis, il trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ça, c'est une belle expérience spirituelle, quand on prie dans la foi, on est renouvelé dans le Saint-Esprit, on est visité dans le Saint-Esprit, et là, ils ont pu repartir, témoigner pour Jésus. On retrouve un peu plus loin Étienne, qui a été persécuté lui aussi, qui a même été lapidé à cause de sa foi, et à un moment donné, il a prié, et ça, c'est... Il y a des chrétiens qui peuvent faire ça, parce que la Bible dit « Priez pour ceux qui vous persécutent », et donc il a prié pour ses bourreaux, il a prié pour ceux qui le persécutait. Il a dit dans Actes 7, verset 60, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » C'est une prière courte. Évidemment, il avait peu de temps. Des fois, on fait des prières express. « Ne leur impute pas ce péché. » C'est une prière puissante parce qu'elle a été exaucée, parce que Saul de Tarse, qui était là parmi les gens qui lapidaient Étienne, a bénéficié de cette prière puisque quelque temps après, cet homme a fait une rencontre avec Jésus. Alors, c'est vrai qu'Étienne ne l'a pas vu, il a prié, ne sachant même pas ce qui allait se passer, mais cette prière a porté son fruit. Saul s'est converti, il est devenu l'apôtre Paul, et il a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Donc, cette prière était vraiment inspirée. Et prions, nous aussi, pour le salut des âmes. On ne sait pas quand les âmes vont se convertir, mais on peut prier pour qu'elles se tournent vers le Seigneur, et prions de tout notre cœur pour nos familles, pour notre conjoint, pour nos enfants, pour nos parents, pour ceux qui sont autour de nous, nos collègues de travail, afin que Dieu touche leur cœur. Ce sont des personnes précieuses que Dieu a placées sur notre route. Et vous serez peut-être les seuls témoins à leur parler de Jésus et à prier pour eux. Eh bien, c'est notre part. Pierre a été arrêté par Hérode un peu plus loin. Il est menacé de mort. Que fait l'Église apprenant cette mauvaise nouvelle? Actes chapitre 12, verset 5, on retrouve l'Église. Pierre était donc gardé dans la prison, lui, il attend son condamnation, son jugement. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. On voit que l'Église allait vraiment dans cette dynamique de prière. La prière, c'était vraiment important pour les premiers chrétiens. Dans l'Église, on doit se soutenir les uns les autres par la prière. La prière, c'est au cœur de l'avancée de l'Église. Dieu entend les prières ferventes. Alors, cette Église ne cessait de prier Dieu pour Pierre, pour que Pierre soit protégé, que Pierre soit délivré. Pierre a été libéré. Un ange est venu dans sa cellule. Les chaînes sont tombées. Pierre est sorti de la prison d'une manière miraculeuse, puisque les gardes ne le voyaient même pas. Donc Dieu a aveuglé les gardes. Et une fois sorti de prison, c'est intéressant, Pierre se dit, mais où est-ce que je vais aller ? Actes chapitre 12, verset 12. Après avoir réfléchi, donc c'est Pierre, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Vous voyez ? Il y a un petit mot qui est ici important, c'est « beaucoup ». Ça veut dire que les chrétiens se sentaient mobilisés. C'est important. Ils étaient ensemble. Ils se rassemblaient chez Marie. Donc, c'était des groupes de maisons. Il n'y avait pas encore des bâtiments comme aujourd'hui. Mais ils avaient compris l'importance de la prière. Donc, ils étaient là. Ils priaient. Et bien, Pierre, lui, il sort de prison. Sa première idée, c'est d'aller à une réunion de prière, là où les frères et sœurs sont rassemblés pour prier. Et c'est là qu'il est allé. Ça, c'était le deuxième point, donc prier quand tout va mal et ne pas se décourager. Troisième point, prier pour recevoir les directives de Dieu pour notre vie, parce que c'est ainsi que Dieu nous conduit. Si on ne prend pas le temps de prier, comment voulez-vous être conduit au bon endroit, au bon moment ou dans le plan de Dieu ? Donc c'est dans un temps de prière que Pierre a reçu une révélation de Dieu concernant le salut des païens. Il avait, donc on va lire Actes chapitre 10, verset 9, ça c'est Pierre. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure, c'est-à-dire vers midi, pour prier. Ah, c'était pas une réunion de prière, c'est lui qui a décidé de prier tout seul. Et ça c'est bien quand un chrétien se dit, tiens, moi je vais prier. Il n'y a personne qui vous dit que là, il faut prier. Il n'y a pas de réunion spécifique à cette heure-là. Mais c'est vous-même qui dites, je vais prendre un temps de prière ici à part. Et ça montre une certaine maturité spirituelle. Quand on arrive à se dire, je vais prendre un temps de prière. Et c'est ce qu'il a fait. Et là, dans ce temps de prière, Dieu a révélé à son cœur une sorte de vision avec des animaux dans une nappe, des animaux qui pour lui étaient impurs. Et Dieu lui dit, mange. Tu es mange. Mais Pierre ne veut pas parce que ce sont des animaux impurs et lui, il est juif. Un juif n'a pas le droit de manger des animaux impurs. Donc, il refuse. Mais Dieu lui dit, ce que Dieu a déclaré pur ne le déclare pas comme impur. Et donc là, il y a quelque chose qui se passe dans son esprit. C'est-à-dire que sa mentalité va être transformée, sa mentalité de religieux juif. Là, il est chrétien maintenant. Il ne faut plus qu'il vive dans la religion de ses ancêtres. Et donc, cette mentalité va être transformé dans la prière, il va se rendre chez Corneille, il va être témoin de la grâce de Dieu. Alors qu'il prêche la parole, le Saint-Esprit va tomber sur ces païens qui vont être sauvés, qui vont être baptisés du Saint-Esprit. Lui qui était juif, il n'avait pas le droit d'entrer chez un païen et il voit tout est bouleversé, tout est changé. C'est-à-dire que par la prière, Dieu change notre mentalité et en fait nous recevons la mentalité de Dieu, la mentalité de la parole de Dieu. Et nous avons besoin de la pensée de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu, pour faire ce que Dieu veut. Si nous faisons l'œuvre de Dieu avec notre pensée, voyez, si Pierre n'avait pas eu cette révélation, il aurait toujours privilégié les Juifs et il aurait pensé que le salut c'était pour les Juifs et il n'aurait jamais pensé prêcher l'évangile aux païens. Mais sa mentalité a été chamboulée, transformée par la prière et ainsi, après cet épisode, il n'avait plus peur d'annoncer l'évangile aux païens, d'aller chez des païens. Il avait compris que l'évangile, ce n'est pas que pour les juifs, mais c'est pour tous. Et ça, c'est un changement de mentalité. Donc le Saint-Esprit a fait son œuvre. On voit un peu plus loin dans Actes chapitre 13, Paul et Silas, qui étaient dans un temps de prière, qui ont été appelés dans un voyage missionnaire. C'est dans Actes 13, verset 1. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez à moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ici, on a un autre élément qui se greffe à la prière, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est-à-dire, on s'abstient de manger de la nourriture. On peut boire de l'eau, par exemple, mais on s'abstient de manger et on passe ce temps dans la prière. Et la prière est parfois associée au jeûne. Ici, c'est le cas. Donc l'Église avait organisé un temps de jeûne et prière. C'est très important, quand on a des temps de jeûne et prière, de se mobiliser, d'être là, de chercher la face de Dieu. Et pendant ce temps de jeûne et prière, alors que l'Église était en communion avec Dieu, en connexion avec Dieu, le Saint-Esprit a révélé son plan, sa mission pour Paul et Barnabas. Et le Saint-Esprit a appelé Paul et Barnabas à devenir des missionnaires. Pour l'instant, ils étaient dans l'église d'Antioche, ils servaient le Seigneur là, mais ils vont changer de ministère. Donc le jeûne et la prière est important, et même il décuple la puissance spirituelle. Jésus a beaucoup insisté sur ce sujet lorsque, par exemple, il y a eu la délivrance d'un possédé. Lorsque le père d'un démoniaque vient vers Jésus, les disciples n'ont pas pu le guérir, n'ont pas pu le délivrer. Alors, Jésus fait la délivrance et les disciples demandent à Jésus, mais pourquoi n'avons-nous pas pu délivrer ce démoniaque? Il y avait deux raisons. À cause de votre incrédulité, parce qu'il manquait de foi. Sans la foi, on ne peut rien faire. Et puis, cette espèce d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, il faut associer le jeûne à la prière dans les combats spirituels qui sont intenses ou dans des temps particuliers. Cela permet de décupler la puissance spirituelle. Alors, quand on parle de jeûne, tout s'oppose à ce que vous jeûniez parce que l'ennemi ne veut absolument pas que vous jeûniez. Déjà, la chair, elle refuse de jeûner. La chair va tout de suite être fatiguée. On le voit bien, c'est un phénomène naturel, c'est un phénomène physique. Le fait de l'idée même de se priver d'un repas, psychologiquement, c'est même difficile à surmonter. De se dire, oh, je vais manquer un repas. C'est facile ou pas? Il faut même se préparer psychologiquement. Je vais manquer un repas. Mais oui, mais c'est ça le jeûne. Il faut se préparer parce que vous organisez un repas à l'église, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, les gens s'inscrivent. Et je me demande, si des fois, j'ai fait un rêve. T'es aussi nombreux au jeûne et prière qu'au repas d'agapé. C'est encore un rêve. J'ai fait un rêve. Mais oui, mais pourquoi ce ne serait pas l'inverse? Pourquoi il n'y aurait pas plus de monde au jeûne et prière qu'au repas d'agapé? Parce que le jeûne et prière, c'est même plus important encore. Alors c'est bien les repas d'église, la communion fraternelle, pas de problème, c'est très bien, pas de souci. Mais il y a un réel combat quand on est dans la vie chrétienne. Et le jeûne et la prière, c'est tellement important et tellement un combat difficile. Vous voyez que c'est difficile de venir, c'est difficile de jeûner, c'est difficile de prendre un temps à part. Alors il faut passer par-dessus, frères et sœurs, et se dire c'est important, c'est nécessaire, je mets de côté ce repas et je viens chercher la face de Dieu. Il faut être déterminé, il faut en vouloir et les mettre toutes les pensées de côté, toutes les pensées négatives, qu'on n'y arrivera pas, que c'est trop dur, etc. Sinon, c'est simple, on ne jeûnera pas et finalement on s'affaiblit spirituellement. Donc la première église, il prenait du temps dans le jeûne et la prière. En fait, peu réalisent vraiment dans quel combat nous sommes. D'abord, la chair réagit toujours si vous voulez jeûner. Ensuite, si vous écoutez la chair, vous ne jeûnerez jamais parce que Galates 5, 17 dit ceci, « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alors, ce verset, il est très clair. Vous voulez jeûner, vous voulez mettre un temps à part. Eh bien, il y a un combat. La chair ne veut pas clairement que vous jeûniez, que vous priez. Et donc, elle va tout faire en sorte pour que vous ne le fassiez pas. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point. Que vous ne jeûniez point, que vous ne serviez point le Seigneur, que vous ne passiez pas du temps dans la prière. Donc, que faire de la chair? C'est là qu'il faut intervenir. C'est notre responsabilité de chrétien. Paul le dit clairement dans Galates 5, 24, parce qu'il dit, oui, il y a ce problème-là qui existe. La chair, on sait bien ce que c'est. La chair, c'est ce qui nous entraîne vers le péché. Et Paul dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Frères et sœurs, si on n'a pas encore crucifié la chair, on n'arrivera jamais à avancer dans la vie chrétienne. Le texte dit, ceux qui sont à Jésus-Christ, il faut passer par crucifier la chair. Une fois que vous avez crucifié la chair, vous pouvez jeûner, vous pouvez prier, parce que c'est la chair qui fait obstacle à tout ce qui est spirituel. Et tant qu'elle est bien vivace, vous ne pourrez pas faire les choses que Dieu veut et les choses que Dieu aime. Et je termine avec une dernière pensée, un dernier axe de la prière, c'est de prier pour les malades. On le voit par exemple avec Pierre pour Tabitha. Tabitha qui était une femme, une chrétienne dans l'église, dans la ville de Joppé, qui faisait beaucoup de bonnes œuvres, elle faisait des tuniques et des vêtements pour les pauvres. Un jour, elle est tombée malade et même elle est morte. Alors, les chrétiens ont invité Pierre à venir pour cette occasion et ils ont fait monter Pierre dans la chambre haute et Pierre a prié pour Tabitha, c'est dans Actes 9, 40. Pierre fit sortir tout le monde, il se mit à genoux et pria, se tournant vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Et puis, Pierre lui donna la main et elle fut debout. Et ça a été un grand miracle connu dans la ville de Joppé, comme quoi cette femme qui était morte était ressuscitée. La prière de la foi, la prière dans des situations bloquées, la prière dans des situations peut-être qui sont mortes, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de solution. Bien, Pierre, il prie. Et ça, c'est la vision du chrétien, c'est la vocation du chrétien. Frères et sœurs, même si la situation est complètement perdue, prions le Seigneur qui est capable de ressusciter ce qui est complètement mort, ce peut-être pour lequel vous n'avez plus aucun espoir. On vous a dit c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Eh bien, Dieu est le Tout-Puissant pour ressusciter les morts, que son nom soit béni. Lorsque les cas sont désespérés, prions. C'est Dieu qui décide. Quelquefois, il reprend. L'un, ici, il a ressuscité. Quelquefois, il reprend. Mais c'est Dieu qui décide. Dieu est souverain. On le dit souvent, on le chante même. Notre Dieu est souverain. Notre part, nous, c'est de prier et de lui faire confiance. C'est-à-dire, Dieu va agir de la meilleure manière. Que ce soit pour, ici, ressusciter ou que ce soit pour reprendre. En tout cas, Dieu fait toujours pour le mieux. Mais il n'y a jamais de situation trop désespérée pour Dieu. Un autre exemple, c'est lorsque Paul, dans son voyage missionnaire, se rend chez Publius. Le père de Publius est malade et il vient d'échouer à l'île de Malte et il va passer 3 jours chez lui. Acte 28, verset 8. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Voilà, on a l'exemple ici d'une personne malade, donc il souffrait de dysenterie, il avait un traitement, ça n'agissait pas, ça ne fonctionnait pas. Paul n'était pas découragé, il n'était pas dépité, nous savons que Dieu peut tout faire. Et il n'a pas dit à cet homme, bon, ben, vous êtes malade, écoutez, vous êtes malade, vous serez toujours malade. Non, il a fait confiance à Dieu, il a prié Dieu et il a imposé les mains dans la foi. Donc, face à la maladie, prions le Seigneur, que Dieu nous dirige, que Dieu nous conduise, que Dieu intervienne. Ne nous décourageons pas. En imposant les mains dans la foi, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui fait le miracle. Nous, notre part, c'est d'obéir. Alors, il l'a fait. Le miracle a suscité la foi de nombreuses personnes qui sont venues aussi et qui étaient malades et qui ont été guéries. Donc, ça a fait boule de neige. Votre témoignage va amener d'autres à rencontrer le Seigneur. Si vous avez vécu une expérience avec Dieu, parlez-en autour de vous. Dites ce que le Seigneur a fait dans votre vie et d'autres entendront aussi le témoignage de l'Évangile. On va conclure maintenant. Sur la prière, on a vu que la prière est puissante, elle est efficace, mais souvent, malheureusement, négligée. D'abord, on ne prend pas le temps de prier chez soi, on néglige la prière personnelle. C'est pourtant la base du disciple. Il nous faut retrouver le chemin d'une prière quotidienne, personnelle. Et puis, comme les premiers disciples, on a vu, nous devons prier avec régularité, persévérance. Par exemple, si un jour passe et que vous n'avez pas du tout prié, même pas lu la Bible, rien du tout, vous devriez avoir quelque chose en vous qui vous dit « c'est pas normal, il y a quelque chose qui n'est pas normal, je ne peux pas me coucher sans avoir prié, ce n'est pas possible ». Un chrétien ne peut pas ne pas prier, il doit être repris s'il ne prie pas, il y a quelque chose en lui qui va lui dire « mais tu ne peux pas dormir, tu n'as même pas prié de la journée, tu n'as rien fait, ce n'est pas normal ». Donc voilà, ça doit être quelque chose qui doit nous reprendre. Ensuite, Prier quand tout va mal, c'est-à-dire dans les situations bloquées, dans les situations sans issue, peut-être les espoirs déçus, rien ne se passe comme prévu, prions le Seigneur. Ensuite, prions pour recevoir les directives de Dieu pour notre vie. Ne cherchons pas à faire par nous-mêmes. Des fois, on prend des décisions à la hâte. On n'a pas pris le temps de prier, on s'est engagé dans une mauvaise affaire. Prenons le temps de prier pour que Dieu confirme. Et puis, prions pour les malades, pour que Dieu pose sa main. On va prier quelques instants, que Dieu nous amène plus loin dans notre propre vie de prière personnelle, et puis comme les premiers disciples, de vivre dans l'Église qui aime la prière, qui cherche davantage le Seigneur, qui passe du temps, qui a crucifié la chair et qui cherche la face de Dieu. Merci encore pour ta parole, pour ces exemples, de ces modèles qui nous ont précédés, de ces témoignages, de ces témoins qui ont pris à cœur la prière comme une priorité dans les moments passés avec toi, Seigneur. C'est ce que nous désirons, avoir, Seigneur, des temps de prière à chercher ta face, de prier dans les combats spirituels, d'avoir une vie personnelle de prière renouvelée, vivifiée par l'action de ton esprit. Je te prie pour chacun ce matin, pour que nous soyons renouvelés dans cette vision, cette importance de placer un temps tous les jours à chercher ta face. Ô Seigneur, accorde-nous, Seigneur, cette sagesse, ce discernement, et d'être sérieux, d'être des disciples conséquents, à ne pas nous reposer sur les autres, mais à prendre notre part dans le combat et à prier nous-mêmes. Oui, Seigneur, nous voulons aussi saisir les occasions quand il y a des réunions pour élever la voix, pour parler de ta part, pour donner quelques paroles dans la prière, Seigneur. C'est tellement important et nous voulons, Seigneur, ne pas laisser la chair surmonter nos désirs, parce que tes désirs, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est chercher ta face. Et nous ne voulons pas écouter les désirs de la chair qui sont contraires, qui sont même opposés au tien, Seigneur. Oui, Seigneur, montre-nous clairement comment vaincre la chair et comment triompher, comment la crucifier, afin que nous puissions progresser. Oui, Seigneur, je te remets le reste de cette journée pour que nous puissions tous servir à ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.